question générale basée sur le premier chapitre de Régis. Et un des thèmes essentiels que nous avons étudiés, si je me souviens bien, c'est qu'est apparue la notion d'un projet qui doit être réalisé dans l'histoire humaine. Je schématise donc de cette manière. Ce projet, je ne sais pas si on était arrivé à le définir, je me souviens qu'il y avait une question de ce côté. C'était les deux notions qui apparaîtront systématiquement dans le déroulement du récit que nous avons la Torah sur les premières générations de l'histoire humaine. C'est la bénédiction et la sainteté. Je ne sais pas si vous étiez arrivé là. Alors, nous avons très rapidement une histoire des 10 premières générations de l'humanité qui se termine au déluge. Là, il y a une première tentative humaine qui aboutit à un échec. Et cet échec est sanctionné, non pas par la destruction de l'humanité qui avait été créée à l'origine, au commencement de l'histoire, mais par son effacement, d'après les termes même de la Torah. Ce que je veux dire, c'est que la forme que l'identité humaine avait prise a échoué, cette forme est annulée. Elle est annulée par le fait que le déluge est un déluge d'eau et non pas un déluge de feu. Le déluge d'eau, d'après les termes même de verset, je ne reviendrai pas sur les détails, mais vous l'étudierez par vous-même, le déluge d'eau efface. C'est l'explication du Maharal que je vous signale là, et efface la manière dont l'homme avait développé son identité, qui avait abouti à un échec, mais ne l'a pas détruit. Et effectivement, nous voyons qu'il y a un rescapé de cette histoire qui a échoué. Je veux simplement dire en introduction très brève qu'on n'étudiera pas en détail ces 10 premières générations, cette première époque, première période. Je ne sais pas s'il y a encore certains d'entre vous qui étaient là l'année précédente que nous avons étudié. Non, c'est pas fini. Top. Donc pour arriver le plus rapidement possible à l'histoire des patriarches, alors je prendrai le récit immédiatement après le déluge. Et simplement, je voudrais indiquer qu'il y a là un problème important et qu'il faut mettre en évidence essentiellement selon quels critères le jugement d'échec de l'histoire de l'humanité a été porté d'après le récit de la Torah. Et ce qui nous frappera certainement à l'étude de ces textes qui vont jusqu'à la fin de la paracha de Bereshit, la première paracha, c'est qu'il ne s'agit pas encore de ce qu'on appellera plus tard, je parle français donc on peut dire comme ça, le problème religieux. Il s'agit du problème moral. Et je vais donner la référence d'un verset important qui indique c'est que l'humanité a été condamnée. Ce diagnostic d'échec a abouti à cette sanction qui a été le déluge, parce que, dit le verset, la terre était emplie de violence. Le problème que la société humaine avait à résoudre, c'est le problème des rapports entre les sujets humains. Ça commence dès le début du récit que la Torah nous donne de l'histoire des premiers hommes. Dès qu'il y a deux frères, ce problème est posé. Comment résoudre cette question fondamentale qui n'a pas encore trouvé de solution finale, disons, le mot est mal choisi, de solution réelle jusqu'à nous. Et comment résoudre ce problème de la coexistence des sujets humains? Il y avait un seul homme sur Terre, l'histoire très haute. Mais dès qu'il y en a deux, alors le problème, finalement, il faut pas les mots les plus simples et les plus fondamentaux, le problème de la paix et de la guerre se pose, et nous verrons que c'est effectivement l'équation fondamentale de la prophétie hébraïque de voir, prévoir un monde où cette question sera résolue, un monde de paix, et qui est le slogan des prophètes de la Bible, et que nous avons les temps messianiques, mais pour vraiment c'est très vague, disons général. Il y a donc un problème que l'humanité avait résolu. Et je voudrais le formuler en termes de la tradition hébraïque, c'est le problème des rapports des hommes entre eux. Pour se dire en hébreu, Ben Adam Lachavero. En filigrane, sous-tendant ce problème, il y a celui des rapports entre l'homme et Dieu, qui est le véritable problème, véritablement le problème religieux, Ben Adam Lamako. Mais on voit que la Torah, intentionnellement, nous donne comme récit un récit qui est basé sur cette lecture de l'histoire. Est-ce que ce problème de la relation des hommes entre eux peut avoir une solution? cette première partie de l'histoire humaine aboutit à un échec, c'est le déni. Est-ce que c'est clair, Jean-Pierre? Alors, je voudrais bien que je sais que là, tu veux voir, je ne vois pas bien aujourd'hui, le verset de Yehola Aretz Aïta Hamas. Et je vous donnerai quand même cette référence. Et voilà, c'est le verset 11 du chapitre 6. Alors voilà le verset. Vatishachet Aretz, et la terre s'est corrompue, s'est détruite devant Dieu. Vatimale Aretz Hamas. Et la terre s'est emplie de violence. C'est là que le jugement, cette sanction qui mène au déluge, dont je vous ai parlé, a été scellée. Alors, encore une fois, ça ne signifie pas que le problème qui apparaîtra de façon plus fondamentale dans la lignée d'Israël, à partir d'Abraham, qui est le problème des rapports entre l'homme et son créateur, Ben Adam Lamakom, n'est pas déjà posé dans cette première partie de l'histoire humaine. Mais c'est d'abord le problème moral, Ben Adam Haveo, qui est le gros plan du récit. Et donc le verset que je viens de vous citer, que vous réétudierez par vous-même, le verset 11 du chapitre 6, le montre bien. Le jugement, la sanction est arrivée parce que la terre s'est emplie de violence. Lorsque vous étudierez les récits de cette première période, jusqu'au déluge, vous verrez que depuis l'origine, depuis le début de cette histoire, tous les sursis possibles sont donnés à l'humanité pour se reprendre, pour tenter de résoudre ce problème. Ceci s'étudie en détail. Et tous les sursis étant épuisés, alors finalement, la sanction arrive. Je signale simplement, en demandant, vous l'étudierez d'autre part, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot, dans le cinquième chapitre des Pirkei Avot, qui indique cela de façon très claire. Il y a 10 générations de Adam à Noach. Cela indique la patience du Créateur que je vous ai appelé donc dans cette analyse, les sursis donnés, que Dieu a donnés, alors que dès la première génération, il y avait échec. Alors je vous dirai donc cette mission en relation avec ce premier thème tout à l'heure. Et voilà qu'il y a un rescapé. Alors, une des questions fondamentales, une famille rescapée, c'est une manière d'être homme qui porte en elle la possibilité d'une reprise de cette tentative de l'histoire humaine, c'est Noé. Noé en hébreu, à partir de maintenant je dirais, enfin, en français, maintenant je dirais en hébreu, Noé. Une des questions posées par le Midrash et les commentateurs, c'est de comprendre pourquoi, par quel mérite, pour quelle raison, cette famille, autour de cette identité noire, a été sauvée, rescapée du déluge. Il faut comprendre le caractère massif de ce récit. Toute une humanité condamnée, c'est déjà un problème en soi, et si on ne fait un effort d'imagination, une humanité entière détruite. Une Shoah, si j'ose dire, de dimension considérable. C'est un événement qui est tellement loin dans la mémoire des hommes qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il représente, mais il a eu lieu, d'après le récit de la Bible. Première question. Et deuxième question, s'il y a un rescapé d'une telle Shoah, si j'ose dire, eh bien c'est qu'il y a une raison exceptionnelle. Donc c'est le premier sujet que nous allons étudier aujourd'hui. Vous allez le prendre à la fin de la sourate Béréchit d'abord. Nous allons étudier le verset 7. Je vous citerai un commentaire qui pose cette question, et tout de suite après, nous commencerons à étudier le profil d'identité de l'homme appelé Noach, à partir de ce que nous aurons appris, les raisons de son salut, et de telle sorte d'arriver le plus rapidement possible, à travers la lignée qu'il va fonder, à cette manière d'être homme qui est appelée Israël, par le récit de la Bible, et qui est l'objet de notre étude cette année. Voilà donc quel est le sujet de l'homme. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Il n'y a pas de... Si vous avez une question, posez-la dès là. Ça ne me préoccupe pas trop dans la suite. Ça me donnera le temps de dire une bracha. Merci à vous. Ah, c'est dessus, c'est là. Bien. Alors, prenez donc ce verset. Le verset 7 du chapitre 6. Alors, ויאמר השם, השם דיב, אמחה את האדם, ג'פסה לא, אשר בראתי מעל פני האדמה, לא כשקחה, ג'לפסה בידושי דרפה, דרפה זה רפה, מאדם הבאמה, דפילון, ג'וסקה לבט, עד רמז, ג'וסקה רפיל, וערוף השמיים, ג'וסקה לרזו ביסיין, תהיה, toutes les, ce qu'on pourrait appeler les êtres vivants de l'environnement de l'homme. Et vous vous souvenez que dans le premier chapitre, les autres êtres vivants et l'homme sont le projet du sixième jour. Ce projet du sixième jour est donné à l'histoire du septième. On a étudié ça la dernière fois, du septième jour, où est logée l'histoire de l'homme jusqu'à la fin de cette histoire, la visée de cet homme messianique dont j'ai parlé tout à l'heure, où l'identité humaine aura résolu ses propres contradictions. Et on reviendra sur tous ces sujets par la suite. Et donc, tout ce qui a été créé le sixième jour, dans l'ordre du projet du sixième jour, l'être vivant, l'environnement de l'homme sera effacé. Ki nihamti yasitim, car j'ai regretté de les avoir faits. Bien, l'objet du cours, ce n'est pas l'étude de l'exégèse de ce verset, si on prendrait trop de temps. En particulier, je vous ai dit, ceux qui sont un peu plus avancés, que le verbe a changé entre-temps dans le verset. Emre et Adam Asher Barati, Kini Hamti Yasitim, c'est pas le même verbe, Baro, Asso, je ne traduis pas, mais je veux citer un enseignement de la Gemara de Sanhedrin, qui indique que était compris dans ce jugement, dans cette décision, dans ce décret, d'effacer cette manière d'être homme des 10 premières générations, Noah aussi. On va l'apprendre du lien entre les deux versets. Le verset 7 que je viens de lire, où il s'agit de tout homme, et le verset 8, « Benoach matzachem be'ene Hashem » et Noah a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Alors voici l'enseignement qui se trouve dans Sanhedrin, page 108a, vient. Alors c'est un enseignement de l'école de Rabbi Ishmael. Afal Noah Nertam Zardim, même sur Noah, cette sanction avait été prononcée, et là chez Matsachem, mais il a trouvé grâce. Chenehema, Nihamti Kaasitim, d'après ce qu'il a dit au verset précédent, j'ai regretté de les avoir faits tous, Venoah Matsachem, et Noah a trouvé grâce. Alors là, je pense que cette citation donne un principe de lecture du verset. À la fois simple et très important, c'est que, semble-t-il, première donnée, du point de vue d'un jugement strict, même cette manière d'être homme qui est nommée Noah, et à partir de laquelle va recommencer l'histoire humaine et va aboutir, à partir d'Abraham, à l'identité d'Israël, selon le récit biblique, même cette identité-là n'avait pas mérité par elle-même de trouver grâce au moment de la sanction du délit. Et que donc il faut prendre au sérieux, d'après cet enseignement, c'est le verset 8, et Noah a trouvé grâce, c'est-à-dire vraiment c'est gratuit. Est-ce que c'est bien clair? Je répète l'enseignement de Rabbi Ishmael, tout devait être détruit. Sous-entendu, y compris Noah, d'après la citation du verset 7. Mais le verset 8 nous dit, et Noah a trouvé grâce, ça veut dire que c'est vraiment une grâce. D'ailleurs, ceci, nous aurons pu l'apprendre directement du verset, mais avec encore une perplexité. Peut-être que si Noah a trouvé grâce, c'est qu'il avait un mérite particulier. Bon, voilà que l'enseignement de Rabbi Ishmael, que je viens de citer, montre qu'il n'en est pas, ce n'est pas le cas, qu'il a vraiment trouvé grâce. Alors, nous avons, c'est clair jusque-là ? C'est le chidouche de la Gemara que je cite. Et nous avons donc une première notion à éclaircir, cette notion de la grâce qui traduit le mot de chen. Bon, je vous ai dit au cours précédent, une des principales difficultés de cette étude, c'est qu'on parle français. Vous savez que les Français ont l'habitude de dire, hein, ils ne comprennent pas que c'est de l'hébreu. Mais en fait, la difficulté est inverse. Alors, ce que je vous demanderai comme effort pour l'étude, c'est de garder la même signification des mots que l'on emploie toujours. C'est-à-dire que les mots qu'on emploie en français gardent le même sens. Sinon, ce sera trop difficile, à cause du peu de temps dont on dispose. Alors, la notion qu'il faut d'abord élucider, chen en hébreu, C'est cette notion de grâce en français, le premier terme qui vous est apparu, retenez-le bien, ça veut dire c'est gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Ça veut dire au-delà de tout mérite qui justifierait ce salut de l'homme. C'est bien clair jusque-là. Première indication. Alors nous continuons le verset suivant. Elle est au bête noir, voici les engendrements de Noir, l'histoire de Noir, mais ici ça signifie les engendrements. Verset 9, au début de la page, verset 9 du chapitre. Voici les engendrements de Noir, c'est-à-dire ce Noir dont on vient de parler au verset précédent. Il avait trouvé grâce. C'est-à-dire, si nous nous posons la question, sous quelle forme, de quelle manière comprendre le fait que Noir est rescapé de cette catastrophe du déluge, quand Noir a répondu, il a trouvé grâce. C'est gratuit. Et alors, le verset 9 continue, et voici, il n'y a pas « et », voici les engendrements de Noir. Noir, Ish Tzadik, Noir, homme juste, Tamim, intègre, Haya, il était. Noir, c'est Noir que l'on vient de citer, était un homme juste, intègre, Bedorotav, dans ses générations, dans les générations qu'il a vécues, et à Elohim, il a l'air noir. Noir se conduisait avec Dieu. Bien, on passera toute l'heure pour essayer de comprendre ce verset, mais tout de suite, je veux mettre en évidence une difficulté apparente dans le lien entre ces deux versets. Je pense que vous l'avez déjà pressenti, déjà la traduction du verset 9, le verset 8 avait dit que Noir a trouvé grâce et que c'était gratuit. Rabbi Ishmael a mis un accent là-dessus. Encore une fois, on aurait pu penser que s'il a trouvé grâce, c'est-à-dire qu'il a été sauvé, c'est qu'il avait un mérite particulier pour cela, une raison, c'est un mérite. Et le verset 9 contredit. L'enseignement de Rabbi Ishmael contredit en nous obligeant de lire l'enjambement des versets 7 et 8 précédents que Noir faisait partie de la sanction de destruction. Elle portait aussi sur lui. Et que s'il a trouvé grâce, c'était vraiment... Il a trouvé grâce, gratuitement. C'est clair? Et voilà que le verset 9 nous dit que c'est un tzadik. Alors, il sentait la difficulté. Okay? Bon. Dans tous les cas, ne serait-ce que cette lecture nous montre que si la Torah nous a dit au verset 9 que Noir est tzadik, c'est pas pour contredire ce qu'elle a dit au verset 8 qui a trouvé grâce. Mais, en tout cas, c'est pas pour nous faire savoir pourquoi Noir a trouvé grâce. Sinon, la contradiction est très entière. Alors, c'est le premier point que nous allons étudier. Et on va l'étudier avec l'aide de Rashi, d'ailleurs, pour ceux qui ont Rashi sous les yeux. Mais avant cela, je voudrais un peu élargir, pour vous montrer les dimensions de ce sujet qui se pose à nous maintenant. Il y a, au fond, deux possibilités d'analyser cette remarque, cette difficulté. Et ces deux possibilités, et on les trouve dans la lecture, l'une dans la lecture juive de ce texte, et l'autre dans ce que j'appellerais la conscience de la conscience chrétienne lorsqu'elle lit la Bible. Et je vais vous citer cela pour vous montrer à quel point ce problème a été important, puisque finalement, dès les premiers chapitres de la Bible, eh bien, il sépare ces deux mondes, le judaïsme d'un côté et le christianisme de l'autre. Ce sont une des catégories les plus importantes de nos différences. Alors, on trouvera dans l'ambiance, si vous voulez, chrétienne, la lecture de la Bible, la notion suivante. Qu'est-ce qu'on appelle un juste? Qu'est-ce que c'est un juste? Pour traduire tzadik, c'est quelqu'un qui a trouvé grâce. Mais, première perspective de lecture qu'on va évidemment évacuer, mais qui nous montre à quel point ce sujet fait problème. Puisque, apparemment, il y a une contradiction entre ces deux notions, ces deux informations que la Torah nous donne, d'une part que Noé a trouvé grâce, d'autre part qu'il est juste. Et le raisonnement, s'il a trouvé grâce, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est juste? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il est juste qu'il a trouvé grâce? Ça, ce serait une lecture possible, mais on est empêché à cause de la contradiction de ça. Parce que si c'est parce qu'il est juste qu'il a trouvé grâce, c'est pas qu'il a trouvé grâce, c'est qu'il méritait. Donc, le verset qui dit qu'il a trouvé grâce serait de trop. C'est clair? Ou je répète. Ce sont deux notions qui sont produites lorsqu'on les comprend de façon stricte. Être tzaddik, ça veut dire avoir un mérite suffisant qui vient de la concordance entre les actes et la loi. Tzaddik, c'est celui dont les lois sont conformes, etc., dont les actes sont conformes à la loi. C'est ça, tzaddik. Celui qui agit justement, de façon juste, par rapport à une norme, par rapport à une loi. Et c'est ça qui fait acquérir le mérite. Or, trouver grâce, cela veut dire, bien qu'il n'y ait aucun mérite, de façon gratuite, il y a le salut de l'honneur. Alors, en ce moment, je reviens à la première lecture, ce que je vous ai cité en second, consisterait à dire, peut-être que la Torah nous a dit qu'il est juste pour nous faire comprendre qu'il a trouvé grâce. Rabbi Ishmael a refusé. C'est clair ? Alors, je vous ai cité en contrepoint, si vous voulez, la manière dont la conscience chrétienne va, elle, opter par rapport à ces difficultés, en inversant complètement les catégories hébraïques de la vie. En disant, qu'est-ce que c'est qu'un juste ? C'est pas du tout quelqu'un qui se définit par rapport à une loi. C'est celui qui a trouvé grâce. Est-ce que c'est clair ? C'est très bien que là, il y a une difficulté pour vous, puisque vous n'avez pas été élevé dans cette mentalité, grâce à Dieu, mais j'essaie de vous la faire comprendre. C'est-à-dire, voilà, comment une mentalité complètement étrangère à la logique de la Bible hébraïque risque d'apparaître. Bon, les postulats viennent d'ailleurs, mais pour mettre en évidence le fait qu'il y a là un problème difficile qu'il faudra résoudre. Alors, on va écarter cette formule, je la répète pour la dernière fois, qui consisterait à dire que le verset 8, puis le verset 9 nous donnerait une définition du juste, ça veut dire celui qui a trouvé grâce. Vous voyez comment nous sommes projetés en univers chrétien. C'est clair ? Bon, on revient dans l'univers juif. Et d'une part, on sait que Noé a trouvé grâce, mais d'autre part, la Torah a tenu à nous faire savoir qu'il est tzaddique, bien qu'il ait trouvé grâce. C'est-à-dire, ne cherchons pas dans sa définition comme tzaddique l'explication de la raison pour laquelle il a trouvé grâce. Parce que trouver grâce, c'est gratuit. Alors pourquoi la Torah nous a dit qu'il est tzaddique ? Vous y êtes ? Alors, vache. Si c'est clair, juste après là. Okay ? Rachid nous dit ceci. Relis le Véhisliro. Puisqu'il l'a mentionné, c'est-à-dire puisque le verset nous a mentionné le nom de Noar, superbe Chifro, il a raconté sa louange, la louange de Noar, en disant qu'il est sadique. On reprend le verset. Elle est au nom de Noar. Voici les enregistrements de Noar. Quel Noar ? Le Noar dont nous a dit le verset précédent qu'il avait trouvé grâce. Et alors, puisqu'on l'a cité en disant qu'il a trouvé grâce, dès que la Torah entreprend de nous dire l'histoire qui recommence avec lui, elle va nous dire sa louange. Chez Neymar, d'après l'enseignement d'un verset qui se trouve dans les Proverbes, chapitre 10, Zecher Tzadik Livracha, le souvenir, la mention, le fait de mentionner, de faire se souvenir de quelqu'un, d'un juste, est en vue de la bénédiction. La mention d'un juste est une bénédiction. Jusque-là. Mais ce nous dit Rashi. Pourquoi la Torah, si nous nous posons la question, pourquoi la Torah dit que Noé était tzaddik ? Rashi nous répond, parce que lorsqu'on cite quelqu'un qui est juste, il faut dire qu'il l'est. Mais ce n'est pas pour nous dire pourquoi il a trouvé grâce. Et Rashi fait appel à tout autre principe. Et l'enseignement de Rashi évacue cette hypothèse que nous aurions, que la Torah nous aurait dit qu'il est tzaddik, pour nous expliquer qu'il a trouvé grâce. Est-ce que c'est vrai jusque-là ? Je reviendrai d'ailleurs sur ce Rashi tout à l'heure, et je voudrais maintenant poser le problème que cet enseignement va immédiatement nous poser, un peu sous forme d'introduction de ce qui va suivre dans le récit. Lorsque je définis la notion de juste, tzaddik, et vous vous souvenez, j'ai fait appel au sens étymologique. La racine signifie tomber juste, ce qui tombe juste. Enlever le majuscule le juste dans le sens moral, par rapport à la vérité morale, et gardons provisoirement le sens de cette racine, tzedek, qui veut dire la justice dans le sens moral, mais qui veut d'abord dire en hébreu la justesse. Par exemple, quand on dit à quelqu'un tu as raison, on lui dit en hébreu ata tzedek. Ça veut dire ça tombe juste, c'est exact. C'est clair ? Et dans l'ordre de la définition du juste par rapport à la loi morale, juste avec un grand J, si vous voulez, eh bien, ça signifie qu'on est en exactitude par rapport à une loi. C'est bien clair ? Bon. Alors, la question la plus générale qui se pose à nous habituellement à propos de ces notions, c'est ceci. Nous savons que la Torah va nous donner une préface historique qui nous révèle, nous dévoile, nous explique ce qu'est l'identité de l'homme. Et à un certain moment, lorsque ce récit aura jugé que l'identité de l'homme est arrivée à une maturité, à une majorité suffisante pour recevoir la loi morale, alors la Torah en tant que loi, enlever l'adjectif de morale, comme de loi absolue, est révélée à cet homme qui est arrivé au pied du Sinaï, la majorité de la maturité de l'humanité, et qui est cet Israël dont on parle. Comme nous l'avons vu la dernière fois, la Torah tient d'abord à nous faire connaître qui est Israël qui reçoit cette Torah, avant de lui donner cette Torah. Hachem Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatananu et Torah. D'abord savoir qui nous sommes pour avoir reçu cette Torah. Bien, ça il me semble, nous l'avons dit la dernière fois. Donc, et alors, ne retourne pas là une difficulté insurmontable. Ça veut dire que seul Israël pourrait être appelé juste. C'est-à-dire que cette notion du juste, du tzaddik, ne serait pas donnée à l'échelle universelle. Qu'il y aurait a priori, si vous voulez, c'est l'analyse à la limite, une sorte d'injustice qui ferait que, a priori, celui qui ne serait pas né d'Israël n'aurait aucune chance d'être tzaddik, c'est-à-dire d'être sauvé. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Je suppose que vous avez dû rencontrer cette difficulté dans vos propres réflexions ou dans vos propres expériences. Et en effet, si être tzaddik, si être tzaddik implique un jugement d'identité par rapport à une certaine loi, la Torah, celui qui ne serait pas dans le cas de connaître cette Torah n'aurait a priori aucune chance d'arriver à être tzaddik. Est-ce que c'est clair ? Si vous voulez, là, le mérite peut être défini par deux conditions, la liberté d'agir et la connaissance de la loi par laquelle on doit être jugé. Que l'homme soit libre, que l'homme est libre, eh bien, on la prend d'autre part, mais voilà qu'on découvre que cette loi par rapport à laquelle on est jugé dans l'ordre du mérite d'être sadique ou pas, n'est réservée qu'à Israël. Vous avez bien compris le problème ? Donc. Eh bien voilà, cet enseignement est très important, puisque la Torah nous indique qu'un homme qui n'est pas d'Israël, bien sûr, est un ancêtre, c'est dans la préhistoire d'Israël, mais c'est l'identité de l'homme appelé Noah, et non pas Israël, encore, parce qu'un homme qui n'est pas d'Israël est appelé tzaddik. Et ça signifie donc qu'il y a au minimum deux niveaux de définition de ce terme, de définition de cette catégorie, qu'il faut arriver à découvrir. Alors je vous donnerai tout de suite la réponse, c'est que, avant la définition que j'ai citée tout à l'heure, du tzaddik, être juif conformément à une loi, eh bien, nous découvrons une définition qui est propre d'ailleurs à la tradition du Midrash, et qui est que le tzaddik se définit d'abord dans l'ordre de l'attitude de la volonté, à l'échelle universelle, c'est-à-dire celui dont la volonté préfère systématiquement, en général, le bien au mal, est appelé tzaddik. Et celui dont la volonté préfère, en général, le mal au bien, est appelé racha. Je dirais, dans une première définition, quelle que soit la loi à laquelle il est mesuré, à laquelle il se mesure, par éducation, par tradition, sa propre éducation, sa propre tradition, il est d'abord jugé dans l'ordre de l'attitude de sa volonté. Au bénéfice, pour l'ajouter tout de suite, d'un certain nombre de minimums de conditions, de bonne foi et de sincérité. Alors, je vais analyser ça. Bon, il y a donc une première définition du tzaddik à l'échelle universelle. Et c'est ce qui nous est indiqué par le verset lui-même. Noah était un homme juste, et la Torah n'est pas encore révélée. Ça signifie donc qu'il y a une définition du juste dans l'ordre de l'attitude de la volonté. On est tzaddik si on est de telle sorte que l'on est porté par sa propre volonté à préférer faire le bien tel qu'on le connaît au mal tel qu'on le connaît. C'est pourquoi, parenthèse importante, il sera d'un grand intérêt de connaître le vrai bien et le vrai mal pour avoir deux chances, le plus de chances d'être jugé devant le tribunal de vérité. Je refais la parenthèse. Mais avant d'arriver là, ce qui se dévoile ici, c'est que la notion de tzaddik est employée d'abord à l'échelle universelle. C'est tzaddik selon l'identité de Noah. Et vous découvrez là la définition de l'alliance des enfants de Noah, la brit Bene Noah, que vous apprendrez, je suppose, d'autre part, elle a ses propres règles. Ça veut dire, à l'échelle universelle, quiconque se définit ainsi, je préfère en général le bien que le bien comme je le connais, au mal comme je le connais, et cette définition est à l'échelle universelle, c'est dans l'ordre de la bonne volonté dans le sens strict, encore une fois, au bénéfice d'un minimum de sincérité et de bonne foi, sans tricher avec ma propre connaissance du bien comme bien ou du mal comme mal. Voilà donc à quel niveau Noah est appelé Tzaddik. D'autre part, nous découvrirons, dès que nous assisterons à la naissance d'Abraham, à partir d'Abraham, de l'identité d'Israël, à qui la Torah sera donnée, qu'il y a une révélation de la loi absolue de ce qu'est le bien et le mal selon Dieu. Et là, c'est le tzaddik de l'alliance d'Abraham. Mais en tout cas, j'espère que vous avez au moins commencé à vous donner un commencement de réponse à la question de tout à l'heure. Il y a une notion du tzaddik selon l'enseignement de la Torah à l'échelle universelle et on l'apprend de Noah. C'est ainsi que Noah était tzaddik. C'est confirmé en particulier par la fin du verset « Et à Elohim, et à l'air Noah ». Noah se conduisait avec lui. Préférait être dans l'ordre de ce que Dieu préfère. Et encore une fois, bien qu'il n'a pas encore été l'objet de la révélation de la loi absolue. Eh bien, ceci dit, et ceci étant, c'est un marche barrière. Et c'était principalement pour élucider le sens du terme que la Torah emploie pour la première fois dans ce verset, le terme de tzaddik. Il ne s'agit pas encore de la définition de tzaddik par rapport à une loi. Et par privilège, la loi absolue, la loi vraie, qui ne sera révélée que plus tard à Israël. Il s'agit encore une fois du tzaddik selon l'ordre de la bonne volonté. Je vous donnerai entre parenthèses, peut-être qu'on aura une fois l'occasion de retrouver cet enseignement, mais déjà, la définition, puisque nous avons posé ce problème, des différents niveaux de l'ordre de la vertu, d'après la tradition, et je vous dirai comment ça a été organisé à travers le nom de Yitzhak. Je vous donnerai tout à l'heure la référence dans un des passages de la prière. Il y a d'abord celui qu'on appelle le Yachar. Le Yachar, l'homme de rectitude, c'est celui qui veut se conduire d'après le chemin droit. Ensuite, le Tzaddik. Le Tzaddik, c'est celui dont la volonté préfère faire le bien que le mal. Et encore une fois, il y aura deux niveaux. Le niveau universel, quelle que soit la loi morale qu'il connaît, de par son éducation, de par sa tradition, mais dans le minimum de bonne foi et de bonne volonté, et cela, c'est la charte des sept lois de bien noir que vous apprendrez d'autre part. Et j'y arrive. Et le deuxième niveau du tzaddik, c'est le tzaddik par rapport à la loi révélée. Bien. Le yachar est celui qui déjà se définit dans l'ordre de la bonne volonté, mais sans référence à une norme, à une loi. Yachar, c'est l'attitude de celui qui préfère la rectitude. Tzaddik, c'est le yachar défini au niveau de ses actes dans la relation à une loi bien précise. Donc, et au-dessus de yachar, il y a le chassid. Du tzaddik, il y a le chassid. C'est-à-dire, le tzaddik veut ce que la loi veut. Le chassid, c'est rajouté. j'ai anticipé. Le tzaddik, revenez, le tzaddik obéit à ce que la loi demande, tandis que le chassid veut par lui-même ce que la loi demande. J'explique rapidement cette différence. C'est-à-dire, il peut y avoir, et vous avez un chapitre de Maïmonide dans les chemins d'Apratine qui étudie cela, il peut y avoir des hommes qui, bien que leur tendance profonde les mène au mal, malgré tout ont des raisons de savoir que c'est le bien qu'il faut faire et font le bien, tzaddik, bien que ça leur fasse du mal. C'est tzaddik verarlo. Tzaddik verarlo liot tzaddik. Vous avez des tzaddikim malheureux, des tzaddikim, mais ils sont tzaddikim. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire?
Et là. Je n'ai pas compris par rapport au Yachar, il préfère la loi, et tu as donné l'exemple de Yitzhak, je préfère la loi, mais il s'agit de la loi en général ou de la loi de la Torah
pour... Je crois que vous avez oublié le début du cours. J'ai dit que par rapport à Noir, il s'agit du tzaddik à l'échelle universelle. C'est clair?
Okay.
Et le yachar, c'est au niveau de celui qui préfère le chemin droit. Le tzaddik, c'est par rapport à une loi, mais à une loi à l'échelle universelle. Il y a un deuxième niveau du tzaddik qui est par rapport à la loi de vérité, le tzaddik de l'alliance d'Abraham. C'est clair? Alors je reprends. Yachar, c'est au niveau de la bonne volonté. Tzaddik, c'est au niveau de la bonne volonté qui se mesure à une loi. Chassid, alors c'est au-delà. Alors je reviens sur la définition du tzaddik. Le tzaddik obéit à ce que la loi demande. Il agit justement par rapport à la loi. Mais on ne décide pas de savoir si dans son fort intérieur, dans sa conscience, il veut ce que la loi veut. Il y obéit. Est-ce que vous comprenez la différence en français des requins? Mais on peut obéir à contre-cœur. Mais on obéit quand même. C'est-à-dire? Et le Rambam va enseigner que celui qui obéit en étant malheureux d'obéir, mais il obéit, a peut-être plus de mérite que celui qui obéit, ça va de soi, de lui-même. Il est tellement habitué que, bon, c'est un sujet pour lui-même. Alors le chassid, c'est celui qui veut ce que la loi veut. Est-ce que c'est clair? Par lui-même, il veut ce que la loi veut. À la limite, je dirais, même si la loi ne lui demandait pas, c'est ça que lui il veut. Alors vous voyez que le niveau du chassid est très élevé. Je n'emploie pas ici le terme chassid dans le sens sociologique. Les communautés qui s'appellent les chassidim, c'est un autre sens. Okay? Ça ne veut pas dire que chez eux, il n'y a pas de chassidim. Ça arrive. Mais dans tous les cas, le chassid a une connaissance profonde, par le cœur, si j'ose dire, de ce que la loi veut lorsqu'elle demande ce qu'elle demande. Et c'est pourquoi il peut arriver que dans sa conduite, il se conduit de façon un peu différente apparemment de ce que la loi dit, parce qu'il fait ce que la loi veut. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit d'obscur, vous n'avez pas compris. Hein. Bon. Alors ça ne fait rien, fermez la parenthèse. C'est l'ifnim mishurat ad-din. Un chassid peut faire ou moins ou plus parce qu'il est chassid. C'est-à-dire parce qu'il sait ce que la loi demanderait dans ce cas particulier. Parce qu'il sait ce qu'elle veut, et pas simplement ce qu'elle commande dans ce qu'elle écrit dans le code. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, alors c'est ça. Alors le kadosh, c'est encore au-delà. Kadosh, l'homme de sainteté, c'est celui qui sait, qui veut ce que Dieu a demandé lorsqu'il a demandé cette loi qui demande ce qu'elle demande. C'est plus long, ok? C'est clair? Alors je récapitule. Chassid, il comprend ce que la Torah veut. Et le kadosh comprend ce que Dieu veut quand il donne la Torah. Alors c'est beaucoup plus haut, ça ne dépasse pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. Et alors vous retenez qu'on a indiqué cela d'après les initiales des mots, yachar, yud, tzadik, tzadik, chassid, chet et kadosh. Kouf, c'est le nom de Yitzhak. C'est pour ça que j'ai cité Yitzhak. C'est clair? Alors vous avez dans la tefila du Shabbat matin de Yom Tov, des filles et Charlie qui vous vous retrouvez. Donc, on apprend ça à propos de l'histoire d'Isaac, on y arrivera peut-être. Alors, je referme la parole. Okay. Dans tous les cas, nous savons que Noir est sali, mais que ce n'est pas pour cette raison qu'il a été sauvé. Alors, je vais vous expliquer de la manière suivante. Ça veut dire que probablement il y avait d'autres sadiques de ce genre avec lui, mais que c'est lui qui a été sauvé de façon gratuite. Est-ce que c'est clair? Mais gratuit, ça ne veut pas dire arbitraire. ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de raison, et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Mais en tout cas, la raison n'est pas son mérite propre. C'est la première indication que je voulais formuler. Je voulais savoir si c'est suffisamment clair. Hein, pour... Et en effet, nous savons qu'il y avait, en ce temps-là, dans ces générations-là, en tout cas au moins un par génération, cela a été cité dans le nom que la Torah cite dans les généalogies, des tzadikim. Mais je n'en citerai un que le Midrash met en évidence, de façon elle-même met en valeur. Vous avez dû lire son nom dans les généalogies. C'est, attention, c'est contagieux, hein. C'est Metushelach. Metushelach, que l'on traduit par Mathusalem en français. Le nom de Mathusalem, c'est un autre sens en français. Il est tout un vieillard très âgé. Mais, alors nous savons que Metushelach était un très grand tzaddik. Et peut-être que... Non, j'allais dire peut-être plus grand que Noir. En vérité, on ne peut pas l'affirmer. Puisque la Torah l'a pas dit, mais selon le Midrash, certainement. Il y avait d'autres tzadikim. Et donc, pour quelle raison, parmi les autres tzadikim, de cette manière de définition du tzadik à l'échelle universelle, j'espère que c'est clair, c'est Noir qui a été choisi. Et alors, le verset nous a donné une indication que le Midrash a beaucoup exploité. C'est que, à propos de Noir, il est dit, regardez la fin du verset, « Et ha Elohim italer Noir ». Noir se conduisait avec Dieu. Là où Dieu se trouve, là où il s'est déjà dévoilé, révélé, Noir se trouve aussi. Et ce verset a été comparé avec le verset que la Torah nous donne pour Abraham. À propos de Abraham, Dieu dit à Abraham, Ithaler le fanai veye tamim. Marche devant moi et sois intègre. Alors nous retrouvons les mêmes termes. Noir, il est tzadik, tamim, intègre, et Elohim, avec Dieu, là où Dieu se trouve. Tandis que ces mêmes termes sont repris pour Abraham de façon complètement différente. Ithaler le fanai veye tamim. Marche devant moi et sois intègre. Donc le programme de la justice, justesse, de la sainteté, déjà amorcé dans le fait d'être tzadik, au niveau de l'identité de Noah et au niveau de l'identité d'Abraham est très différent. Alors on va commencer à s'habituer à cette distinction dans l'identité humaine entre deux lignées, toutes les deux pouvant être définies comme tzadik, mais différentes du projet même et tel qu'il va se réaliser dans l'histoire. Là, je voudrais prendre un petit moment, entre parenthèses, pour faire une indication de vocabulaire. Jusqu'à présent, on pourrait tenter d'établir que il y a des tzadikim en Israël et il y a des tzadikim en dehors d'Israël. Et on peut garder cette définition. En réalité, le vocabulaire de la tradition nous habitue à un autre vocabulaire. Il y a des tzadikim en Israël et des hassidim en dehors d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Est-ce que vous avez en tête les deux mishnayot auxquelles je pense? Okay. Hassidim ou mota olam, yet laem, chelek la olam. Pourquoi on ne dit pas tzadiké ou mota olam? C'est l'indication de vocabulaire que je vais vous donner. Mais retenez quand même que finalement, pour notre sujet, ça revient au même. Okay. Qui pourrait proposer une réponse? Kol Israël, Ishlaim, Chenek, La Olamaba, Sheneimar, Vlamer, Kulam, Tzadikim. Et l'autre Mishnah dit, il propose de Oumata Olam, Hasidé Oumata Olam, Ishlaim, Chenek, La Olamaba. Alors, quelle est la différence? Je traduis. Pour Israël, la Mishnah dit, tout Israël, en principe, j'ai ajouté en principe parce qu'on peut le perdre, part au monde à venir, d'après un verset qui dit, et ton peuple, c'est un peuple de juste, Tzadikim. Alors que pour les nations du monde, la Mishnah dit, les chassidim des Umot HaOlam ont chelek la'olam haba, on part au monde à venir. Et on s'attendrait à tzadikim.
Est-ce que vous avez dit que les tzadikim se définissaient essentiellement par rapport à la loi?
Oui.
Et donc, et ici, le peuple d'Israël?
Oui, mais je viens de dire à propos de Noir qu'il y a des Shiva Mitzvot des Noirs.